Vous écoutez RTL.
On ouvre notre garde-robe sur RTL. Transition toute trouvée. Bonjour Georges Vigarello.
Bonjour.
Soyez bienvenue.
Vous êtes Merci. Historien, spécialiste de l'histoire des représentations du corps. Ça ne vous surprend pas que la garde-robe royale soit copiée, épiée, que les pièces portées par Meghan Markle le jour de l'annonce de ses fiançailles soient déjà épuisées?
Écoutez, pas du tout. Parce que la robe, c'est vraiment une façon d'exprimer son apparence, de la magnifier, de la présenter à un ensemble considérable. Et dans le cadre de la royauté, c'est absolument central.
Et on a toujours cherché des modèles.
Ces modèles ont varié. C'est ça que je trouve très intéressant. C'est ça qui me paraît lié aux mœurs en particulier.
On va voir tout ça avec vous dans un instant sur RTL.
Est-ce qu'elle portera un corset, tiens, Meghan Markle?
Je crois pas. Je crois qu'elle va
c'est
pas.
Fini,
elle va
ça,
pas
hein.
aller jusque-là.
Elle a pas besoin.
Non.
Elle sûrement. A un tronc parfait.
Aucune femme n'a besoin d'un corset. Laissez-nous vivre.
Le maudit corset, ce sera l'un des thèmes de la curiosité. À tout de suite.
On est bien entre curieux.
Vous écoutez RTL.
RTL.
T'avais mis ta robe légère, moi légère contre un cerisier.
Trempé sous la pluie.
La curiosité est un vilain défaut.
La même robe qui est si restée toute la nuit.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Une robe bleue quand il pleut.
Jusqu'à 15h sur RTL.
Une robe verte pour les jours de fête. Une robe noire pour les François.
Francis Cabrel chante la robe, on l'avait reconnu, mais aussi Chantal Chiche, chanteuse de country canadienne dénichée par notre réalisateur André Facetta. On a la curiosité de découvrir l'histoire de la robe sur RTL avec Georges Vigarello, historien spécialiste de la représentation du corps. Aujourd'hui, ça nous semble tellement évident de choisir un vêtement pour son confort qu'on a quand même du mal à imaginer ce qu'était ce maudit corset. Sait-on qui l'a inventé, Georges Vigarello?
Oui, c'est pas une invention de type personnel, c'est plutôt une invention collective, mais ça date de la fin du XVIe siècle. Et c'est Marguerite de Valois qui est une des premières à l'avoir porté. Elle avait deux plaques, vous voyez, deux plaques métalliques de part et d'autre du corps et des côtes. Donc ça renvoie effectivement à un dispositif qui était particulièrement contraignant par rapport à nos repères. Je pense à ce texte magnifique de Montaigne qui à peu près date de la même époque, où Montaigne dit mais c'est incompréhensible, elles portent des contraintes qui sont folles, elles ont des croches qui peuvent parfois faire jaillir
c'était
le sang.
C'était pour faire une taille fine, même le haut du corps.
C'était pour affiner le haut du corps. Mais quand on dit ça, on oublie un autre dispositif qui me paraît à mes yeux alors absolument fondamental dans la robe, c'est le bas. Et le bas est caractéristique, c'est une sorte de grand enveloppement qui part à l'horizontale à partir de la ceinture et qui crée ce que moi je considère comme étant un piédestal. Et on comprend à partir de là pourquoi le tronc est relativement serré, c'est comme un jonc, vous voyez. C'est vraiment une image traditionnelle.
Pour que ça ressemble à une statue.
C'est ça ce ressemble à une statue dont le visage serait en quelque sorte la fleur, en quelque sorte l'émergence la plus esthétique. Mais ça renvoie aussi, et ça c'est lié à une des dimensions fondamentales de mon projet, ça renvoie à l'image de la femme. L'image de la femme traditionnelle, c'est quand même une personne qui est statique, qui renvoie un décor, qui n'est pas active, qui est
Qui est adulée, donc sur un piédestal.
Mais bien entendu, absolument. Et c'est fixe, vous voyez, c'est quelque chose. C'est une personne qui est complètement figée, c'est une beauté hiératique. Ça, c'est absolument fondamental. Et à partir de là, on comprend évidemment le dispositif esthétique.
Georges Vigarello, vous publiez La robe, une histoire culturelle. Aux éditions du Seuil, on y découvre la parenthèse heureuse de la Révolution française que suppriment les femmes de leur tenue.
Alors vous avez raison, c'est une parenthèse heureuse parce que en fait, ce qui est obtenu, c'est d'abord une mobilité. C'est d'abord la possibilité de disposer de façon plus ouverte du corps. Alors ce qui est supprimé sont deux choses. Je reviens au bas, ne l'oublions jamais. Le bas tombe et il devient fluide. Et quant au haut, bien entendu, c'est le corset qui disparaît. Donc ça donne un corps qui est un corps liane. C'est une véritable invention. C'est une révolution au sens fort du terme. Mais qu'une fois encore, pourquoi? Mais c'est lié aux mœurs. C'est-à-dire que ce qu'on attend de la femme, c'est qu'elle soit davantage engagée dans l'activité, c'est qu'elle soit davantage présente, c'est qu'elle soit davantage dynamique, et c'est le fait, c'est un cas.
Et c'est à cette époque-là, la Révolution française, que les femmes se mettent à porter des pantalons?
Oui, alors il y a une tentative qui reste, pour tout le dire, extrêmement furtive, hein, qui consiste, pour certaines d'entre elles, à se promener en pantalon, mais très vite, le pantalon est interdit.
Par Napoléon, c'est ça?
Oui, par Napoléon, mais de toute façon, c'est aussi un interdit moral, si vous voulez.
Pourquoi?
Ne l'oublions jamais. C'est considéré comme une façon de se transformer en homme, c'est une façon de se transfigurer, c'est inacceptable de porter pour la femme un habit qui est un habit masculin, vous voyez, dans la mentalité ancienne, bien entendu, ne l'oublions jamais. Et donc, effectivement, le pantalon est impossible, mais ce qui est possible pendant la période révolutionnaire, et c'est central, c'est ce type de tenue beaucoup plus fluide
et
qui
plus légère
le
aussi.
Pas et le mouvement plus léger.
Le tissu est plus léger.
Il y a deux choses. Il y a deux choses qui sont très intéressantes. La première, c'est ce que je viens de dire, c'est la mobilité. La deuxième, nous l'oublions jamais, c'est quand même l'accès à quelque chose qui est de l'ordre de l'affranchissement de la pudeur, de l'affirmation au fond d'un plaisir qui peut avoir une dimension érotique, qui peut être de l'ordre de l'attirance et de la séduction. C'est fondamental parce que la séduction, ça a été très fondamentalement interdit. Très fondamentalement barré. C'était acquis de façon indirecte. On mettait du fard. On essayait d'abaisser un tout petit peu la ligne des épaules. Mais il y avait quelque chose de très lourd qui pesait sur ce type de dispositif. Or, à la Révolution, il y a cette double rupture qui me paraît fondamentale, que montre parfaitement quoi ? La valse. La valse est une invention géniale de la fin du 18e, oui. Où les deux corps se rapprochent et où le mouvement en virevolte est précisément au cœur de la dynamique.
Et où les corps se frôlent,
absolument.
Touchent.
Et où les jambes peuvent se croiser. Vous savez, c'est extraordinaire ça, jambes qui peuvent se croiser. C'était impossible avec une robe qui était bombée.
Ah bah justement, la curiosité continue sur RTL et on vous lance un défi. Essayez de monter à bord d'une gondole avec une robe à crinoline.
Vous écoutez RTL.
La robe dans tous ses états, parfaite ou pas, sur RTL avec l'historien Georges Vigarello. En observant les tenues portées par les femmes françaises au fil des siècles, et c'est ça qui est passionnant, on peut vraiment en déduire leur épanouissement social, leur liberté par exemple. Au milieu du 19e siècle, c'est l'apparition de la fameuse crinoline. À faire un peu d'étymologie, vient d'où ce nom ? Et qu'est-ce qu'il dit de cette armature ?
Alors ça vient de crin. Et le crin, c'est une substance extrêmement rigide qui va donc être intégrée dans cette fameuse bombe que représente le bas. Et puis, le mot crinoline va bouger et ça va signifier les arceaux qui vont être mis à l'intérieur de la robe, qui sont des arceaux extrêmement fins, extrêmement souples, faits dans un acier très léger, mais qui accroît en quelque sorte la rigidité. Mais ce qu'il faut dire auparavant, nous parlions de la Révolution française, en disant que le mot révolution correspond aussi à une révolution de la mode. Mais le mot restauration correspond aussi à une révolution. Vous voyez, il y a un retour. Il y a un retour de la dépendance, il y a un interdit sur les métiers, il y a une impossibilité d'accéder dans une grande mesure à l'espace public. Et donc, on retrouve le dispositif ancien qui va se prolonger, indiscutablement, avec les crinolines dont
on
vient de
parler. Mais il y a des femmes qui se révoltent contre cette crinoline, qui refusent de la porter.
Alors, ce qui est passionnant, bien entendu, c'est que à partir de la Révolution française, d'une façon traditionnelle, il y a toujours eu des révoltes. Mais à partir de la Révolution française, une révolte sourde quand même s'installe. Il y a des révolutions qui résiste, Olympe de Gouges en est un magnifique exemple, mais il y a aussi pendant la restauration, la monarchie de Juillet, des femmes qui résistent, je pense à George Sand. George Sand est un exemple magnifique où elle porte le pantalon et où elle dit, alors c'est ça qui est très intéressant et subtil, elle dit je porte le pantalon parce que je ne veux pas être l'objet d'un regard qui me fige comme devant être séduite. Je veux apparaître comme étant autonome et comme ne devant pas être dépendante du regard de l'autre. Et ça, c'est vraiment très intéressant parce que je trouve que c'est vraiment rentré dans une modernité qui nous concerne.
Georges Vigarello, comment les femmes surnommaient-elles parfois ces crinolines ? Il y avait différents surnoms. Vous avez dit une bombe tout à l'heure.
Il y a la bombe,
c'était
oui.
C'était la forme de la robe.
Ça forme une véritable bombe. Hein. C'est vraiment très large. Et puis alors, ça entraîne des contraintes parce que vous pouvez pas passer. Je pense aux expositions universelles. Vous passez pas les tourniquets. Alors donc, ce qui s'invente aussi à cette même période, grâce à des avancées techniques, c'est le fait que vous pouvez trouver des systèmes qui restreignent, qui permettent de restreindre. Vous voyez, un peu comme, je dirais, un parapluie. Ça rentre. Vous voyez.
On pouvait raccourcir le.
On raccourcit le bombage. Vous voyez.
Crinoline, c'est la robe de tous les jours ou la robe des sorties ?
Alors, c'est une question fondamentale. Cette crinoline, c'est quand même une robe qui, indiscutablement, renvoie à une image bourgeoise. Mais il ne faut jamais oublier qu'au-delà de cette image bourgeoise, le populaire, lui aussi, rentre dans ce dispositif de bombée avec cette image d'une femme traditionnelle qui, au fond, fixe, vous voyez. Alors, les procédés ne sont pas les mêmes.
Même la paysanne.
Les procédés ne sont pas les mêmes.
Donc, elle trouve le moyen de créer cette forme.
C'est-à-dire qu'il y a des petits coussins qui sont mis, mais il y a surtout le fait qu'on fait plier à l'extérieur des tabliers qui vont jouer sur plusieurs plis, voyez, et qui vont donner ce sentiment d'écartement. Donc, les matériaux ne sont pas les mêmes, mais au bout du compte, les formes sont très semblables.
Ouais. Et vous racontez dans votre livre, Georges Vigarello, La robe, une histoire culturelle publiée au Seuil, vous citez cette lettre envoyée par l'écrivain et archéologue Prosper Mérimée à la comtesse de Montiro, l'épouse de Napoléon III. Qu'est-ce qu'il lui dit?
Il rigole, il dit, avec essayez de rentrer dans une dans un bateau du
comment une ça gondole, s'appelle
du jour
de monter sur une gondole.
Oui, essayer de rentrer dans une gondole, c'est évidemment impossible.
Avec une crinoline.
Et on voit d'ailleurs que à partir de cette époque-là, il y a l'amorce d'une contestation, qui n'est pas seulement la contestation venue des femmes, mais qui est aussi une contestation venue des hommes. Autrement dit, il critique le fait que ces femmes sont en quelque sorte enfermées dans ce dispositif-là. Elles ne sont pas suffisamment, je dirais, toniques, mobiles.
Ça pourrait même être dangereux.
Par exemple, vous avez des dessins qui sont très intéressants, où on voit l'homme qui est obligé de se contorsionner pour pouvoir marcher à côté d'une femme, parce qu'évidemment, la robe vient heurter en permanence ses jambes. Donc, on voit dans la deuxième moitié du 19e siècle, émerger quelque chose qui commence à être de l'ordre de la contestation. Et je trouve que c'est absolument passionnant parce que c'est bien le signe d'un mouvement de mœurs qui va dans le sens d'une libération, une libération attendue aussi de la part des hommes.
Et puis ça passera par le tailleur et les jupes qui vont apparaître, puis raccourcir, mais attention, pas trop. Hein. Sur RTL, on vous raconte l'histoire de cette speakerine licenciée en 1964 pour avoir, incroyable, montré ses genoux à la télévision française.
RTL.
La musique sur RTL, c'est ça. Des tubes.
RTL. Et des standards.
Et tous les week-ends, du live.
On aime la musique sur RTL.
RTL.
Bonsoir, Laura Domange, c'est moi. Voilà, je vois dans les regards ce que vous me demandez, mais c'est qui celle-là, avec cette ravissante petite robe? Je vais pas vous mentir, je me cherche.
Une robe de cuir, comme un fuseau.
La curiosité est un vilain défaut.
C'est extra.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Mets ta robe à nana. Mets ta robe, on s'en va.
Jusqu'à 15h sur RTL.
On l'entend dans l'escalier.
La robe de cuir, on voit bien. La robe à nana, franchement, on ne la visualise pas tout de suite avec notre invité Georges Vigarello.
Non, je dois dire honnêtement.
Dans vos archives.
La couleur,
dans vos archives.
Dans mes archives, il y en a quand même beaucoup, mais oui. Ce nom n'est pas véritablement resté.
Voilà. Voilà, c'était juste un extrait.
Pourtant, on l'imagine bien, cette robe à nana.
Oui, alors est-ce que c'est une robe qui renvoie à la forme de la nana ou est-ce que c'est une robe qui renvoie à la couleur? La forme, à mon avis, elle peut effectivement redevenir bombée, mais c'est uniquement pour accentuer la dynamique et pour permettre la danse et pour permettre la virevolte. Vous voyez, ouais. Autrement dit, il y a des formes qui peuvent rester, mais leur destin n'est pas le même. Et ça, c'est très intéressant.
Et vous publiez, vous êtes vraiment un puits de science en matière d'histoire culturelle de la robe. C'est le titre de votre livre publié au Seuil, avec cette polémique qui nous semble incroyable aujourd'hui. On est au milieu des années 60. En 1964, Noël Noblecourt est licencié de l'ORTF. Qui est-elle et que lui reprochent ses patrons?
Alors, Noël Noblecourt est une speakerine et on lui reproche d'avoir laissé apparaître ses genoux à l'antenne.
Ça veut dire quoi? Elle a soulevé un peu sa jupe? Elle est arrivée avec une jupe un peu courte.
Oui, je crois qu'elle a une robe qui est courte, puisque commençaient à apparaître les robes relativement élevées. Mmh. Et je pense qu'elles ont un double destin, ces robes. Vous voyez, je reviens à l'argument que nous avions tout à l'heure. Je crois que d'une part, elles favorisent le mouvement, c'est-à-dire qu'elles donnent une liberté, le pas. C'est très important, le pas qui s'accroît et qui vous donne le sentiment que vous pouvez finalement bouger.
Marcher plus vite.
Marcher plus vite, de façon plus naturelle, etc. Et deuxièmement, le fait que vous soyez en mesure d'affirmer quelque chose qui est de l'ordre de votre propre érotisme éventuel. Pourquoi pas? Je vois pas pourquoi il y aurait un interdit, voyez. Ouais. Ça donne une double valence. Et c'est vrai que, du coup, ce qui est reproché à ce type de dispositif, je pense par exemple à la reine d'Angleterre qui interdit le fait d'avoir des robes qui montent au-delà de 7 cm au-dessous du genou à la même époque.
C'était aussi précis que ça?
Aussi précis que ça, 7
cm. Il fallait se balader qu'un double décimètre, alors.
C'est incroyable.
À la cour.
Pointu, et ça existe dans le règlement. C'est
mais c'est parce que l'Angleterre, à l'époque, subit, alors c'est pas le bon terme, profite de la mode des mini-jupes.
Oui,
c'est
je pense que l'Angleterre, la cour veut montrer le respect d'une certaine pudeur, et nous l'oublions jamais, c'est Marie Quant, la première à avoir inventé la mini-jupe au début des années 60. Nous l'oublions jamais.
Alors ça, elle plaît tout de suite ou elle fait scandale tout de suite, cette mini-jupe?
Alors, entre les deux, il y a évidemment la naissance d'un scandale, mais en même temps, indiscutablement, elle plaît. Et elle est intéressante parce qu'elle fait naître autre chose. Que fait-elle naître? Le collant. Et le collant est intéressant aussi parce qu'il peut multiplier les couleurs, il peut favoriser là encore la gestuelle. Et on voit dans les affiches elles-mêmes le fait que la dynamique est infiniment plus présente dans les affiches des années 60 qu'elle ne l'était dans les affiches des années 50.
D'un mot, Georges Vigarello, le pantalon a supplanté la jupe.
Alors fondamentalement, le pantalon a supplanté la jupe. C'est la fin de mon histoire. Vous voyez, mon histoire se termine sur autre chose. Et il a supplanté pour plusieurs raisons. D'abord parce que le pantalon donne précisément la dynamique dont je parlais. Parce que le pantalon donne un certain confort. C'était le mot que vous utilisiez au début de l'émission.
Oui.
Et le pantalon aussi, alors ça c'est fondamental à mes yeux, permet quelque chose qui est dans une sensibilité. Vous voyez, vous éprouvez une de l'intérieur, en quelque sorte, une sensibilité qui est de l'ordre de la libération. Et c'est absolument fondamental. C'est dans ce sens-là que va cette histoire.
Merci beaucoup, c'était passionnant. Georges Vigarello, La robe, une histoire culturelle du Moyen-Âge, a aujourd'hui publié au Seuil. C'est aussi un très beau livre avec des illustrations
qui sont magnifiques. Manifestement trouvé des images merveilleuses.
C'est la fin de cette curiosité. Vous pouvez nous podcaster sur RTL pour nous faire découvrir à vos amis qui portent des jupes, des pantalons ou qui se trimballent tout nus. Il y en a aussi.
Bah sûrement ça, ce qui nous écoute.
Vous écoutez RTL.